Vous écoutez France Musique.
Bonjour et bienvenue aujourd'hui, 6 juin, jour J, 70 ans après.
Ce sera notre destin d'avoir vécu en des temps historiques. L'an prochain, nous pourrons penser au Muguet. Aujourd'hui, il n'est de pensée que pour la guerre, il n'est de chant que ceux de la résistance.
Ce document date du 1er mai 1944, le soir, à la BBC, une BBC évidemment extrêmement brouillée.
Et patrie, voici le poste de la résistance française. Ainsi s'achève le dernier des premiers mai de combat. Il aura été le plus unanime et le plus farouchement décidé des jours de lutte. Dans toute la France, l'ennemi a pu mesurer l'étendue de la menace qui le guette. Il sait que désormais, peu de temps le sépare de l'exécution. L'heure de l'action décisive va sonner bientôt. Il n'est plus pour les patriotes que de l'attendre avec calme et résolution.
Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langue monotone. Tout suffocant des blêmes quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de-ci, de-là, pareil à la feuille morte. Paisible rumeur-là vient de la ville. et je m'en vais, au vent mauvais qui m'emporte de-ci, de-là, pareil à la feuille morte.
Charles Trenet, bien sûr. Le 1er juin 1944, dans l'émission de la BBC, des messages sont destinés à la résistance et un speaker lit le début d'un poème de Verlaine qui annonce les sanglots longs des violons de l'automne. Chacun sait donc que le jour J approche et le 5 juin, le soir, c'est la suite qui annonce le débarquement.
Le but principal doit être, à chaque échelon, de coordonner l'action militaire avec l'action de résistance des masses. Tel est votre programme en attendant le déclenchement des opérations. N'attendez pas de nous que nous vous en révélions la date, que nous ne connaissons pas évidemment, mais que chacun comme nous sait proche.
Nothing to say about this. The moon is rising and she is not his. Our wings are caking with malignant ice. Different language speaks. The hours are minutes and the years are weeks. The slow gulls wander and the tracer streaks. Has nothing to say, and this is done. At night, the long youth of the flaring gun against the great raiders, the great sun. returning now the dawn has let him be safe. No one has really asked him for his life. Eating eggs and bacon with a fork and knife.
À certains moments, on pourrait penser à Du Britten, c'est signé Aubert Lemelan, composé au moment du 50e anniversaire du débarquement. C'était Carole Farley que vous écoutiez, la soprano, avec la récitante Pamela Hunter. L'ensemble instrumental de Grenoble, dirigé par Marc Tardu, ça s'appelle Airmen, guerre, pilote, équipage, trois poèmes. Il faut dire que quelques mois auparavant, Aubert Lemelan, le compositeur, avait écrit les chants pour les soldats morts, ou bien Omaha, sur un texte qu'il avait lui-même écrit au cimetière américain de Colville, en 1993, un compositeur qui a été tellement marqué par ce qu'il a vécu dans sa jeunesse. C'était dans le Cotentin, c'était la grande bataille de Normandie en juin 1944. Et les trois poèmes que vous écoutiez étaient dus à Brian Allwood, un poète de 23 ans, tué au combat en Italie le 30 juin.
Thank you.
marche hongroise de la damnation de fausse d'Hector Berlioz, l'orchestre symphonique de Boston dirigé par Charles Munch. Charles Munch dont on parlait beaucoup et que l'on entendait beaucoup sur les ondes de Radio Paris, des radios pendant l'occupation. Et on pense notamment à ce concert monstre à l'Opéra. C'était en novembre 1943, donc 6 mois avant le débarquement. 610 musiciens, le Requiem de Berlioz, imaginez 3 orchestres, 4 fanfares, 5 chorales, enfin quelque chose d'énorme, comme aurait dit Flaubert, mais en tout cas le mardi 6 juin 1944. Ça faisait des semaines que le débarquement était attendu, annoncé, espéré. La veille au soir, l'Opéra de Paris avait affiché la damnation de Faust, justement, de Berlioz. Et pendant ce temps-là, à l'Opéra Comique, on préparait une grande représentation pour le 25 juin de Louise de Charpentier. prélude du troisième acte de Louise de Gustave Charpentier par l'orchestre du Théâtre National de l'Opéra Comique, dirigé par Jean Fournet. Jean Fournet qui dirige très souvent pendant l'occupation à Radio Paris. C'est le directeur de la musique à l'Opéra Comique. Et Louise de Charpentier est donnée le 25 juin 1944 en présence de Charpentier qui justement dirige à 88 ans ce prélude du troisième acte. Et où est-ce que ça se passe ? Exactement dans l'opéra de Charpentier, en haut de la butte Montmartre, avec un panorama de Paris. Il se trouve qu'au même moment, Radio Paris ou Radio Vichy ne cesse de relayer, avec complaisance on peut dire, les dégâts causés par les bombardements sur Paris, fin avril 1944, ou sur Lyon, en début juin.
Es brennt, Brüder, es brennt. Ui, unser Uhr im Städtel nebel brennt. Bei se Winden mit ihr Gusen reisen, brechen und zerblüsen. Starker noch wie wilde Flammen, nick unser Uhr schon brennt. Und ihr steht und kippt das Uhr mit verlegten Händen. Und ihr steht und kickt das Eul, wie unser Städtel brennt. Es brennt, euch Brüder, es brennt, euch unser Uhr im Städtel nebel brennt. So bin schon die Feierzungen, das ganze Städtel reingeschlungen und die Beise wie den Huschen, nick und zerrut schon brennt. Und ihr steht und kickt das Heu mit verlegten Händen. Und ihr steht und kickt das Heu wie unser Städtel brennt. Es brennt, Brüder, es brennt. Es kann Cholile kommen, der Moment. Das ganze Stutt mit uns zusammen geht auf Asche weg in Flammen. Bleiben soll noch wie noch eine Schlacht, nicht schwarze Puste weh. Und ihr steht und kickt das Heu mit verlegten Händen. Und ich steht und kickt das Heu wie unser Städtel brennt. Ui, es brennt, Brüder, es brennt. Ui, unser Uhr im Städtel nebel brennt. Ui, das Städtel ist der Teier. Nimm die Kehlen, lösch das Feuer. Lösch mit ihren eigen Blut. Beweis hat ihr das Kehl. Nein, ihr steht und kickt das Ui mit verlegten Händen. Nein, ihr steht und kickt das Heu wie unser Städtel brennt.
Il brûle, mes frères, il brûle notre pauvre village, des vents mauvais avec fureur s'élèvent et cassent et soufflent et sont plus forts encore que les flammes sauvages tout autour de nous brûlent. Et vous êtes là à regarder, les bras croisés, vous êtes là et vous regardez notre village brûler. Voilà ce que chantait Moshe Leiser avec Ami Flammeur au violon et Gérard Barrault à l'accordéon. pendant que, en juin 1944, on le sait, les sinistres convois continuent d'envoyer les juifs, les résistants, vers les camps de concentration et d'extermination. Et pendant que, par exemple, le 6 juin au soir, à Radio Paris, à 21h30, il y a une émission qui s'appelle « Les Juifs contre la France », un cabaret antisémite quotidien, et qui est diffusé jusqu'au 11 août 1944. Juste après, à 21h40, c'est une émission qui s'appelle « La milice vous parle ». Bien sûr, il faut oublier le bruit de fond, c'est enregistré en 1943. Chopin, valse en ut dièse mineur, en 1943, pratiquement plus personne n'enregistre en France. Enfin, on dit cela parce qu'il n'y a plus de matière, sauf pour Alfred Cortot. Cortot, image phare de cette période de la collaboration pétainiste. Hein, Cortot, c'est quand même le commissaire aux Beaux-Arts à Vichy. Haut commissaire, s'il vous plaît. Tournée de concert en Allemagne en 1942, il joue, il dirige de très nombreux concerts, hein, comme chef d'orchestre, l'inattendu Orphée de Monteverdi en novembre 1943 ou une dante symphonie de Liszt, le voyage de Siegfried sur le Rhin et le 8 juin 1944 la légende de Sainte-Élisabeth de Franz Liszt. Cortot omniprésent comme ici le 20 janvier 1944.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous allez entendre notre concert public, concert qui vous est donné par le Grand Orchestre de Radio Paris sous la direction de Wilhelm Mengelberg avec le concours d'Alfred Cortot.
20 janvier 1944, Wilhelm Mengelberg dirigeait en direct sur Radio Paris l'orchestre de Radio Paris avec Alfred Cortot au Théâtre des Champs-Élysées dans le final du concerto en fin mineur numéro 2 de Chopin. On peut se poser des questions quand on entend ça. On se demanderait presque si les musiciens font exprès de mal jouer par résistance au fait que le parterre était franchement vert de gris et que Cortot était Cortot. On ne sait pas très bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les salles de spectacle étaient souvent pleines en juin 1944. Les concerts permettent, on le sait, un instant d'échapper au quotidien. Et les concerts, il y en a des beaux. Par exemple, la 5e symphonie de Beethoven, le 19 avril, sous la baguette d'Herbert von Karajan. Le 9 juin est prévue la venue au Palais de Chaillot de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Et puis, il y a, en ce mois de juin 1944, un festival Beethoven au Théâtre des Champs-Élysées, les concerts de Radio Paris avec au piano par exemple Otto Sonnen, qui n'est pas n'importe qui au sens où c'est un responsable de l'organisation des programmes des concerts classiques à Radio Paris. La vie musicale dépend d'une branche de la propaganda Staffel, c'est bien normal en quelque sorte dans un Paris occupé. Et qui dirige l'Orchestre de Paris, notamment pour ce grand festival Beethoven? Wilhelm Mengelberg.
Thank you.
Voilà la façon dont Wilhelm Mengelberg dirigeait le troisième mouvement de la 8e symphonie de Beethoven avec l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam en 1938. Retour à 1944 où, à la radio, la musique classique a une place absolument importante. Hein. Du côté de Radio Paris, il y a les concerts de l'orchestre de Radio Paris tous les dimanches, donc en direct du Théâtre des Champs-Élysées. Radio Vichy programme le 6 juin au soir Lili Laskin. Et le midi même, sur Radio Paris, c'est un programme Wagner.
Aujourd'hui, nous voulons, pour conclure, vous rappeler ce que, dans leur dernière réunion, ont décidé les représentants de toutes les organisations de résistance groupées au sein du Conseil national. En vue de l'action immédiate, former des comités dans les villes, villages et entreprises par la coordination des formations déjà existantes ou des créations nouvelles et y enrôler les patriotes non encore organisés.
1944, le Troisième Reich s'est mis en frais pour offrir à Richard Strauss un beau cadeau d'anniversaire. D'ailleurs, ce cadeau d'anniversaire n'a cessé entre juin et juillet, et même avant, parce que ici, c'était enregistré avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne, le compositeur Richard Strauss, dirigeant Richard Wagner, les maîtres chanteurs, l'ouverture d'une façon qui pleure un petit peu par certains moments à cause de la bande, mais qui nous rappelle à quel point il y a une pompe de circonstances, on pourrait dire. Et d'ailleurs, au mois de juin, on fête un peu partout l'anniversaire de Richard Strauss. Le 11 juin, il a 80 ans. Et à Radio Paris, le 25 juin, on donne les maîtres chanteurs, justement, à 15h30. Le 29 juin, c'est le Telemann qui chante du Strauss. Et le 2 juillet, c'est un festival Richard Strauss, dirigé par Van Kampen, avec Marcel Meyer. Richard Strauss est partout.
La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureurs, de douleurs, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France.
Carillon, c'est celui de la suite de danse d'après François Couperin, signé Richard Strauss. C'est le compositeur lui-même qui dirige l'Orchestre Philharmonique de Vienne en 1944.
Rappelez-vous seulement ce que nous vous avons dit tant de fois à propos du fameux jour J. Ce jour ne marquera que le début des opérations. Et aucune manifestation inutile ne doit en compromettre le déroulement, ni mettre en danger vos personnes.
Politics, what you say?
Step aside, partner, it's my day. Bend an ear and listen to my version. Pardon me, boy, is that the Chattanooga juju?
Yes, yes, track 29.
Boy, you can give me a shine.
Can you afford to board Chattanooga juju?
I got my fare
and just a trifle to spare.
You leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore.
Dinner in the diner, nothing could be finer
than to have your ham and eggs in Carolina.
When you hear the whistle blowing eight through the bar, then you know that Tennessee is not very far.
Shamalala calling, gotta keep it rolling.
Ooh, ooh, Chattanooga, there you are.
gonna be a certain party at the station.
Certainly.
I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam.
So Chattanooga choo-choo,
won't you choo-choo me home?
Chattanooga, Chattanooga,
get aboard.
Chattanooga, Chattanooga,
all aboard.
Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga choo-choo,
won't you choo-choo me home?
Chattanooga choo-choo.
Nous sommes venus apporter un peu de l'air du pays à des gars qui font un boulot infernal et qui sont privés de vraie musique américaine. Voilà ce qu'il disait Glenn Miller, que vous venez d'entendre avec son grand orchestre ici. Un concert Glenn Miller était prévu à l'Olympia de Paris à la fin 44, après la libération. Miller a pris l'avion depuis Londres et le 15 décembre, il disparaît. Mais le 6 juin 44, on n'en est pas encore là. C'est au son... par hasard d'un concert de jazz que les Américains apprennent en direct à minuit 45 que l'invasion a commencé, mais de source allemande et à l'époque non confirmée. Un grand merci à l'équipe d'aujourd'hui qui m'accompagnait pour cette émission pas comme les autres. Jean-Paul Lafavergès, Cyril Ziotosevitch, Jean-René Benissant, Sylvain Richard. Merci aussi à Cécile de David Beauregard des archives écrites de Radio France et Anne Lorveille, Elisabeth Verrière, Delina.